Bonjour à tous. Cette semaine dans Évasion Romanesque, je vous propose de retrouver Michel Bussy avec son roman sorti en 2015, Maman a tort. Je vous avais précédemment présenté cet auteur français, aujourd'hui incontournable, avec son polar se déroulant à Giverny, le pays de Claude Monet. Notre professeur géographe, né en 1965 dans l'Eure, s'est lancé dans l'écriture en 1998 avec un essai universitaire sur les éléments de géographie électorale, sa spécialité. Mais assez rapidement, il change de cap et commence l'écriture d'un polar qu'il publie en 2004, Code Lupin. Michel Bussy a trouvé son style. Il est dans la digne veine de la maîtresse en la matière, Agatha Christie. Avec une intrigue étonnante et un labyrinthe de pistes, il perd le lecteur pour mieux le surprendre à la fin. D'ailleurs, le public ne s'y trompe pas. Il est aujourd'hui classé deuxième écrivain français en nombre de livres vendus. Plus d'un million d'exemplaires. Nous sommes en Normandie, après le casse de Deauville qui a mal tourné. Cyril et Ilona Lucoville, deux participants au braquage, se font tuer par les flics qui les poursuivent dans leur fuite à pied. Timo Soler perd son casque en tentant de s'enfuir en moto et finit sa course par terre après avoir reçu une balle dans le torse, mais réussit tout de même à prendre la fuite. Quant à Alexis Zerda, le cerveau supposé du quatuor, il n'a été vu par aucun témoin et reste toujours introuvable. Tout comme le butin d'ailleurs, évalué à plus de 200 000 euros en produits de luxe. Cette enquête occupe toute la brigade de la commandante Marianne Ogresse de la police du Havre. Dans le même temps, un enfant de 3 ans éveille les soupçons du personnel de l'école maternelle en racontant qu'il a deux mamans et des souvenirs si précis que le psychologue scolaire, Vasil Dragonman, ne peut croire que ce ne sont que des inventions d'enfants. Sur les conseils d'une amie commune, le psy rencontre la commandante Ogresse et compte bien sur un coup de main de sa part pour enquêter sur le petit avant que ses souvenirs ne s'évanouissent. Vasil Dragonman étala les dessins sous le nez de la commandante Marianne Ogresse. Il désigna le premier, une feuille presque blanche griffonnée de 4 barres noires, verticales, et d'un zigzag rouge. Regardez précisément les traits. Marianne Ogresse posa une main sur le dessin pour le masquer. Non, monsieur Dragonman, on va d'abord commencer par le commencement. Qui est ce môme ? Parlez-moi de ses parents en deux mots. Vasil se mordit la lèvre comme un enfant pris en faute. Les parents, normaux, banals, rien à en dire de spécial. Vous les avez rencontrés ? Une fois, au début, je me posais moins de questions à ce moment-là. Vasil avait presque l'air de s'excuser, comme s'il culpabilisait de jeter ainsi la suspicion sur une famille sans histoire. Marianne trouvait incroyablement mignon ce comportement de petit garçon gêné de jouer au vilain rapporteur. Très bien, monsieur Dragonman. Revenons-en au gosse. Expliquez-moi ses dessins. Comme je vous l'ai dit au téléphone, il prétend avoir vécu une vie avant celle qui est la sienne aujourd'hui, avant de vivre avec ses parents, Amanda et Dimitri Moulin. Il me parle avec beaucoup de précision de cette vie précédente, alors que d'après son institutrice, Malone Moulin est plutôt un enfant réservé. Pourquoi se confie-t-il à vous ? C'est mon métier. Observez ses dessins, continua le psychologue. Ce sera plus simple. Sur celui-ci, les 4 traits verticaux, selon Malone, représentent le château à côté duquel il vivait. Ce sont les 4 tours. Le zigzag qui monte vers le haut de la page, c'est une fusée. Il dit se souvenir de l'avoir vue s'envoler dans le ciel, plusieurs fois. Marianne soupira. Cela ne tenait pas debout une seconde. « Vous avez oublié les pirates ?» lança-t-elle distraitement. « Il y avait un bateau pirate aussi hier. » Vasil ne repéra pas la pointe d'ironie. « Oui, exact. » Il attrapa un autre dessin. Les hachures bleues représentent la mer. Malone prétend qu'il la voyait de sa chambre. Et les 2 petits points noirs, c'est un bateau. Un seul, mais cassé en 2, il l'apercevait de sa chambre lui aussi. C'est ce genre de précision qui apparaît troublante. Tout est très stable dans ce qu'il raconte. D'une séance sur l'autre, il ne se contredit jamais. Le doigt de Marianne courut le long de la mer bleue. Elle s'avança sur le bureau, poitrine en avant, son plus bel et seul argument auprès des hommes. Blague d'Angie ou pas, il était temps de mettre fin à la comédie. « Franchement, monsieur Dragonman, qu'attendez-vous de moi ? Jusqu'où espérez-vous que je vous suive ? Vous n'allez pas me dire que vous croyez que ce gamin vous dit la vérité, simplement sur la base de ses gribouillis et de ses délires ?» Les yeux de Vasil Dragonman lancèrent un éclat affolé. Deux poteries, terre de sienne brisée, irrésistible. « Si, commandante, en dépit de toutes les apparences, je le crois, 8 ans d'études et autant d'années d'expérience sur le terrain devraient me persuader que ce gamin s'est créé un monde intérieur, avec une symbolique qui lui est propre, un labyrinthe psychologique où il faut avancer avec prudence. Mais appelez cela comme vous voulez, instinct ou intuition, je suis persuadée que la majorité des souvenirs de cet enfant sont réels. » Même si ça ne colle pas vraiment avec ce que je connais de la psychanalyse. Oui, j'ai la certitude qu'il a vraiment vu toutes ces choses qu'il dessine. Vous avez autre chose, monsieur Dragonman ? Quelque chose de, disons, plus concret ? Oui, Vasile se pencha sur sa sacoche en cuir, visiblement recousue par ses propres soins, puis en sortit une série de clichés d'un centre commercial. « Vous reconnaissez ? C'est le centre commercial du Mont-Gaillard, le plus grand de l'agglomération du Havre. Malone prétend que c'est dans cette galerie marchande que sa mère, la vraie, l'a confiée à sa seconde maman, Amanda Moulin. » Je lui ai montré plusieurs clichés. Malone a reconnu le McDonald's, le logo Auchan, le dessin de l'île du pirate, un perroquet rouge et vert. On ne trouve les trois enseignes réunies que dans ce centre commercial. Le gamin n'a pas pu l'inventer. Ça ne prouve rien, conclut-elle après un moment. Il confond ou il se contente d'utiliser un lieu qu'il connaît. Il ne confond pas, commandante. C'est difficile de vous expliquer en si peu de temps la nuance entre la mémoire arrangée et la mémoire épisodique, mais il ne confond pas, je vous l'assure. Ce gamin a subi un traumatisme lourd et a construit de sacrées murailles pour enfermer ce fantôme quelque part dans sa mémoire. Le psychologue avait compris qu'il avait de nouveau capté l'attention de la commandante. Il continua, veillant à ne pas accélérer le début de ses phrases. Et cette histoire, bien que rocambolesque, intrigue Marianne, mais plus encore pour cette célibataire de presque 40 ans, le physique mystérieux du psy roumain au regard de feu qui ne la laisse pas indifférente. Elle va donc mener de front les deux enquêtes, avec tout de même une priorité pour retrouver ce satané Timo Soler, blessé et terré quelque part. Il suffit de suivre sa trace, mais où commence-t-elle ? Mais l'intérêt que Vasile Dragonman porte à Malone, ce gosse si différent des autres, inquiète les parents, Amanda et Dimitri Moulin, réveille aussi une vieille connaissance du père, une rencontre faite en prison, il y a bien longtemps. Pourtant, maintenant que tout le monde parle de la mort subite de ce fameux psy, les choses devraient rentrer dans l'ordre. Alexis Erda s'invite toutefois un soir chez les Moulins et Malone, en le voyant, s'enferme dans les toilettes. Il connaît cet ogre. Sa maman d'avant lui avait dit de s'en méfier. Et bien évidemment, quand un ogre se montre à nouveau, c'est que les choses vont mal tourner, c'est sûr. De force, Malone est sorti de sa cachette. Zerda ordonne à Amanda de monter dans son 4x4 noir avec le petit et de l'attendre le temps qu'il liquide ce bon à rien de Dimitri. Après, ce sera leur tour, Amanda le sait. Il faut, quoi qu'il arrive, qu'elle protège cet enfant. Le sien, maintenant. C'est une bonne fée qui lui permettra de prendre la fuite avec le petit, plus tard. Elle s'approcha et colla son nez sur le mur. La lézarde ressemblait davantage à un fil qui menait du plafond au sol, longeait la plinthe pour remonter ensuite sur quelques centimètres jusqu'à une petite table de formica meublée d'un seul tiroir. Amanda passa son doigt sur le mur. Plus étrange encore, la fissure dans le mur n'était pas naturelle. On l'avait tracée, au feutre noir, en pointillés minuscules, en imitant de façon saisissante une discrète file d'insectes. Comme dessinée par quelqu'un qui connaissait le secret de son fils, qui savait que les seuls êtres vivants l'ayant accompagné dans sa montée vers le ciel étaient des insectes, avançant en procession sous son crâne. Elle se retourna doucement vers Zerda. Il parlait à Malone, devant l'entrée de la maison. Qu'est-ce qu'il pouvait lui raconter ? Peu importe, elle disposait de quelques secondes de répit. D'évidence, celui qui avait tracé cette ligne noire voulait qu'elle ouvre ce tiroir. Elle le tira vers elle, prenant soin de se placer devant pour que son corps le dissimule. De vieilles cartes routières mal repliées s'étirèrent. Elle les poussa, chercha dessous, se mordit les lèvres. Elle ne comprenait pas. Ses doigts tremblants attrapèrent les deux cartons rectangulaires. Elle tenait dans sa main deux billets d'avion. Deux noms, Amanda et Malone Moulin. La curiosité avait été la plus forte. Amanda continuait de fouiller le tiroir tout en veillant à toujours boucher l'angle de vision d'Alexis. Elle avait déplacé dans le même mouvement l'objet dissimulé dessous. Comme dans un jeu de précision, cette fois-ci, elle prit un temps infini pour poser la carte routière sur la table en formica afin de dévoiler le fond du tiroir. Elle plissa plusieurs fois les yeux pour être certaine qu'elle ne rêvait pas. Il n'y avait pas d'autre explication. Quelqu'un l'avait déposé là, exprès. Pour elle, c'était un flingue. Et elle l'utiliserait, c'est sûr. Elle serait ainsi débarrassée de Zerda et pourrait s'enfuir avec son fils. Enfin, c'est ce qu'elle croit. Parce qu'une autre personne œuvre dans l'ombre. Et elle compte sur l'intimité qu'elle a liée avec Marianne pour que les choses se terminent comme elle l'a préparé depuis très longtemps. Une fin inattendue à laquelle on ne peut s'attendre.
L'actu des bibliothèques.
Exceptionnellement, le rendez-vous que je vous propose de noter sur votre agenda est pour ce vendredi soir à la médiathèque de Crolles. Les rayonnages de livres font place aux instruments de Sébastien et Esteban Félix pour partir aux sources du jazz manouche. Dès 18h30 et en entrée libre, plongez dans la culture Sinti, vendredi 4 octobre à 18h30 à la médiathèque de Crolles.